Alors, apprendre une langue locale, comme le maoré, n'est pas évident. Surtout quand il n'y a pas d'application comme Duolingo, qu'il n'y a pas d'école, ni même d'écriture standard où les linguistes seraient mis d'accord sur la façon d'écrire le chimaoré. Et quand, comme moi, on n'a jamais appris une autre langue que sa langue maternelle. De plus, être dans la quarantaine n'aide pas. Et être en quarantaine non plus. Mais grâce au temps d'immersion que nous avons pu avoir dans la population, je vois quand même quelques progrès et j'espère pouvoir annoncer le message de l'Évangile en chimaoré. En attendant, si j'en suis pas encore capable, je crois et je sais que mon attitude et celle de ma famille, notre vie en somme, traduisent quelque chose de la Bible. Aussi, être en harmonie avec la parole est primordial. Pour chacun de nous, en tant que famille, mais aussi en tant qu'Église, car cette parole contient le plan de Dieu pour l'humanité. C'est cette réflexion qui m'a conduit à choisir ce texte. Alors, ce texte nous plonge dans le premier siècle de notre ère. Cette lettre est une trace du mentorat qui existait entre Paul et Tite. Paul était dans la ville de Philippe et Tite se trouvait alors en Crète. La mission que Paul confie à Tite se déroule donc dans cette grande île, déjà bien ancrée dans l'histoire, puisqu'elle a connu ses heures de gloire et de sagesse. Sa position stratégique dans la région et ses quatre ports commerciaux la rendent très attractive. Mais depuis un siècle, elle n'a cessé de décliner. Beaucoup de Crétois se sont livrés comme mercenaires aux plus offrants et les mœurs se sont progressivement dégradées. Et le simple mot de Crétois est même devenu une insulte. C'est donc dans ce contexte peu reluisant que Paul et Tite ont commencé un travail d'implantation d'église. Mais voilà qu'un problème survient, similaire à ce que vous avez certainement déjà vu en parcourant les sept églises de l'Apocalypse. On voit la pression d'anciens juifs et d'autres beaux-parleurs qui détournent peu à peu les chrétiens de la vérité de l'évangile reçu. Alors, je vous propose de regarder ensemble en deux points, comment la place de la parole est au centre des conseils de Paul, qui exhorte à se fonder sur la parole de vérité et pousse à combattre le mensonge par la parole. Alors, dans les 9 premiers versets, il est question de la mission de Paul et Tite et de celle qu'exerceront les futurs responsables. Mission dont le but est de ramener les chrétiens à leur amour premier, comme ce fut le cas de l'église d'Éphèse dans votre série. Alors, comme pour construire une maison, Paul commence par les fondations, dès les présentations. On le voit au verset 1, cette lettre était adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Alors, comme si Tite ne le savait pas. C'était quand même son collaborateur. Mais cette lettre est bien plus qu'une trace de cette correspondance avec Tite. Elle est aussi une preuve écrite sur laquelle Tite va pouvoir s'appuyer pour légitimer sa mission. Précisée au verset 5. Maître en ordre ce qui est resté en suspens et établir des responsables dans chaque église. Et cela se confirme au verset 4. Je te salue, Tite, mon véritable enfant. On voit bien que le lien était déjà établi, un lien, pas un lien basé sur le sang, mais sur la base de leur foi commune. Paul et Tite sont collaborateurs et croient en la même vérité, socle de leur foi commune. Alors, partager cette vérité est l'objet même de la mission de Paul. On le voit, j'ai été chargé de conduire ce que Dieu a choisi dans la foi et la pleine connaissance de la vérité. Pourquoi ? Pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Il est question là de sauver des vies pour l'éternité. Et cela concerne toute une population. La mission est donc de la plus grande importance. Et sur quoi se fonde cette vérité que partagent Paul et Tite et sur laquelle ils ont consacré et pour laquelle ils ont consacré leur vie? Elle se fonde au verset 2 sur la foi qu'ils ont aux promesses, aux paroles promises par Dieu, par le Dieu qui ne ment pas. Le message de Paul et donc de Tite découle, verset 3, des paroles de Dieu lui-même qui ont été confiées aux apôtres. Cette base est donc inattaquable. Elle est vraie, prévue depuis la Genèse et attestée encore ici dans cette lettre. Après cette mise au point fondatrice, Tite va devoir s'occuper des élus de Dieu en Crète et les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité. Mais Tite est seul. Aussi, la première chose que Paul lui demande pour consolider ses implantations, c'est d'établir des responsables. On le voit au verset 5. Et dans les versets 6 à 8, il pose les critères nécessaires et se focalise sur la vie citoyenne de ses futurs responsables. Un témoignage public irréprochable, une vie de couple et de famille dont il n'y a rien à redire. S'ensuit une deuxième partie au verset 7, une série de défauts à ne pas avoir, et à l'inverse au verset 8, une série de qualités qu'il faut avoir. Et quand on se rappelle du contexte de cette époque en Crète, qui est peu recommandable, on peut se dire que la tâche de Tite ne va pas être évidente. Mais c'est pourtant nécessaire, rappelle Paul, car la responsabilité dépasse celle de la famille biologique. Elle implique la famille de Dieu. Verset 7, d'où cette intransigeance envers les responsables qui devront être irréprochables dans une société aussi corrompue que l'était la Crète. On retrouve ici la vocation d'être sel et lumière demandée par Jésus lors du sermon sur la montagne. Les disciples de Christ que nous sommes individuellement et en Église doivent être attirés vers la sainteté de Jésus et ainsi donner envie de connaître Jésus. Alors face à ces critères, nous pourrions avoir le tort en tant que serviteurs de chercher des solutions pour être à la hauteur à travers des méthodes, des livres ou autres pour remédier à nos lacunes, car il faut bien le reconnaître, nous avons tous des progrès à faire. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est que tous ces critères ne viennent pas de qualités d'hommes exceptionnels ayant reçu une super formation théologique ou ayant suivi les 7 astuces pour une vie saine, mais bien, verset 9, de leur fidèle attachement à la parole de vérité qui leur a été enseignée. Si Tite commence par trouver des hommes irréprochables en tout point, il devra s'assurer que cette transformation découle bien de la vérité de la parole. Alors seulement, ils seront aptes pour leur mission, qui est décrite à la fin du verset 9, encourager les autres selon l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Car la finalité n'est pas d'être un meilleur chrétien pour soulager sa conscience, mais un meilleur serviteur pour les autres, pour les encourager, pour les édifier, pour les exhorter selon la parole. Pour établir la vérité dans ces implantations d'église, Paul place donc la parole de Dieu au centre. Nous sommes tous exposés à des mensonges, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans nos études, nos familles et même au sein de nos églises. Alors comment les repérer? Comment s'en prémunir? Alors nous, dans la famille Roland, on est des grands adeptes de jeux de société. Et il arrive parfois, surtout moi, que j'essaie de détourner à mon avantage certaines règles en disant « Oui, mais dans ce cas-là, ça serait possible de faire ça. » Et c'est là que notre fils, qui est le plus juste de nous tous, très à cheval sur les règles, reprend la règle du jeu qu'il connaît souvent par cœur et qui dit « Non, la règle c'est celle-ci. » Et il rétablit la vérité telle qu'elle a été prévue dans la règle du jeu initiale. Il en va de même dans nos vies. C'est en se reposant sur la seule vérité incontestable et inébranlable qu'est la parole de Dieu que nous pouvons repérer les mensonges et nous en prémunir. Étant tous appelés à être serviteurs dans le royaume de Dieu, la centralité de la parole devient le fondement sur lequel s'érigera notre foi saine et nos bonnes œuvres. Souvenons-nous que si les chrétiens lisent la Bible, les non-chrétiens commencent souvent par lire les chrétiens. Alors maintenant que les bases sont posées, Paul va nous parler de ces contradicteurs plus en détail et de trois attitudes à avoir pour combattre le mensonge. Alors, à Mayotte, le mensonge concernant l'évangile a été minutieusement instillé dans la société et ce depuis des générations. On explique par exemple aux enfants que le démon, l'esprit mauvais le plus puissant de l'île, s'appelle Mwana Hisa, ce qui veut dire l'enfant Jésus. Donc, on est mal barré pour pouvoir commencer à expliquer l'histoire de Noël aux enfants sur ces bases-là. Mon voisin, une fois que je lui présentais l'évangile, m'a dit que lui, ce qu'on lui avait enseigné concernant Jésus, c'est qu'il n'était pas mort sur la croix. Il a été élevé au ciel avant la croix. Et celui qui allait sur la croix, c'est Judas, qui a été transformé en Jésus au moment où Jésus est monté au ciel. C'est ce genre d'enseignement qui détourne les Maorés de la vérité. Ce qui nous fait dire qu'il nous faudra être très attentifs à ces croyances-là lorsque, Dieu voulant, nous accompagnerons les premiers chrétiens. Car c'est bien au sein de la communauté que le mensonge sévit en Crète à cette époque-là. Aussi, la première attitude que Paul demande d'avoir, c'est de faire taire les menteurs qui déstabilisent la communauté. Versets 10 à 13. Pourquoi ? Parce qu'en refusant de se soumettre à la vérité, ils dispensent des discours sans fondement. Verset 10. Parce que leur but est de s'assurer des gains malhonnêtes au lieu d'honorer Dieu. Parce que les conséquences sont graves puisqu'ils déstabilisent des familles entières. On le voit au verset 11. Finalement, leur attitude est la même que celle des Crétois lambda, dont la réputation était d'être menteurs, bruts, et ne pensant qu'à manger en faisant le moins possible. Paul n'est pas méchant, ni insultant à l'égard des Crétois. Son objectif est de faire réaliser à Tite et aux églises de Crète que le problème de ces faux enseignants n'est pas si étonnant. En refusant de se soumettre à la vérité de la parole, ils ont comme base celle de la société dans laquelle ils vivent. Une vérité fluctuante qui varie selon l'intérêt des uns et des autres, ou des circonstances, ou encore des influenceurs. D'où la nécessité de ne pas leur laisser prendre la parole, car ils reflètent plus la société qui les entoure que l'évangile qu'ils devraient prêcher. C'est ce qui peut nous arriver aussi si nous n'examinons pas comment notre culture influence nos réactions et nos décisions. Dans notre ministère, il est important que nos réactions face aux événements montrent notre attachement à la vérité biblique et non à notre culture, à la culture à laquelle nous appartenons, que nous soyons crétois, français ou maorais. C'est cette différence notable qui pointera vers Jésus. Car si nous réfléchissons selon les bases de ce monde, quelle saveur aurons-nous? Un certain Richard Foster disait « Se conformer à une société malade, c'est être malade. » C'est d'autant plus vrai au sein de nos communautés. Si notre enseignement n'est pas fidèle au texte biblique, alors mieux vaut se taire. Car dans ce cas, nous détournons nos frères et sœurs de la vérité. La deuxième attitude que Paul relève, c'est de reprendre la communauté influençable. Dans les versets 13b à 14. Paul exhorte Tite à reprendre sévèrement non pas les discoureurs malhonnêtes, eux, il faut les faire taire, mais bien ceux qui les écoutent. Car le souci de Paul, rappelons-nous, c'est leur salut et leur foi. Autrement dit, sauver des vies pour l'éternité. Verset 13, pour qu'ils aient une foi saine. Paul ne se moque pas gratuitement des Crétois, mais se soucie d'eux. Il ne veut pas, verset 14, qu'ils s'attachent à des spéculations juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Il rappelle que s'attacher à autre chose que la parole de Dieu, que la vérité, que la parole de vérité, c'est s'éloigner de Dieu. S'attacher à autre chose que la parole de vérité, c'est s'éloigner de Dieu. Cela devrait nous interpeller sur les voix que nous écoutons. Celle de l'actualité, celle des réseaux sociaux, celle des politiques, celle de nos proches, ou celle de la parole de vérité qui s'inscrit, elle, dans une perspective éternelle. La sévérité demandée par Paul va avec les enjeux éternels. Si j'appartiens à Dieu, je désire écouter sa voix et lui obéir, et donc changer. La troisième attitude face au mensonge est de discerner les deux types d'enseignements, les saints et les perdus. Versets 15 à 16. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour les hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Autrement dit, ceux qui sont saints restent dans la sainteté. Ils aspirent à rester saints, mais les autres ne peuvent accéder à ce qui est saint car leur préoccupation est centrée sur les biens de ce monde. En effet, verset 16, leurs pensées et leur conscience sont salies ou souillées. De même que les futurs responsables transformés par la parole sont qualifiés pour de bonnes œuvres. Verset 16, ceux qui prétendent connaître Dieu, mais dont le comportement détestable et rebelle montre qu'ils le renient, sont eux disqualifiés pour toute bonne œuvre. Alors pour discerner les menteurs, les auditeurs doivent savoir que l'attachement à la parole produit un fruit visible. Aussi, le faux enseignant est reconnaissable aux mauvais fruits qu'il porte. On ne peut pas tricher avec Dieu. Cela finit par se voir. le mensonge au sein de l'Église se combat par la parole, qui doit être la base des enseignements, la seule voie de référence et la source de toute bonne œuvre. En conclusion, pour mener à bien sa mission, Tite a intérêt à s'armer de l'épée de la parole. Verset 1 du chapitre 2, « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. » Cet enseignement que Dieu a fait connaître aux hommes par le message proclamé par les apôtres, à savoir l'œuvre de Christ. Dieu fait homme, condamné, tué et ressuscité pour le salut de quiconque croit. Oui, parce que nous étions incapables de sortir de notre attachement au mal, Jésus a accepté de payer le prix fort pour nous. C'est cela, revenir à notre premier amour. C'est se rappeler que notre éternité est acquise une fois pour toutes par Dieu lui-même, par amour et par grâce. Pour finir, il ne nous est pas demandé à tous d'apprendre une langue étrangère pour annoncer le message de l'Évangile, ni de quitter son pays. En revanche, nous devons tous aspirer à parler le langage de Dieu, celui qui est conforme à l'enseignement saint. Pour cela, rien de tel qu'une immersion quotidienne et assidue dans la parole de vérité, terreau de toute bonne œuvre. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci parce que elle nous rappelle que sans toi nous ne sommes rien, que nous sommes tellement attachés au mal que nous ne pouvons par nous-mêmes nous en sortir. Nous rappelons, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous savons que c'est par elle que nous sommes sauvés. Seigneur, merci parce que ta parole nous aide à plonger nos regards dans cette vérité. Merci Seigneur parce que tu nous aides à pouvoir avancer conformément à notre statut de fils et de filles du royaume. Seigneur, aide-nous à pouvoir chaque jour avancer dans la connaissance de ta parole et dans la pleine vérité, afin que les gens qui ne te connaissent pas puissent te voir, te découvrir, que nous puissions leur parler de cette parole de vérité. Seigneur, nous te prions pour tous ces Mahorais qui sont contenus dans le mensonge. Seigneur, permets que par ton esprit, leurs yeux s'ouvrent, que leur cœur s'ouvre aussi et qu'ils puissent découvrir la vérité de ta parole. Seigneur, conduis-nous dans la mission que nous avons et conduis-nous chacun dans la mission que tu nous donnes d'être sel et lumière là où nous sommes. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.